De la puissance des mots, de la pertinence du combat, de la force de la poésie, nous allons parler ce soir sur le plateau d'À l'être nu qui se tient dans le cadre exceptionnel de la cour de la collection Lambert au cœur d'Avignon. Et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel, puisque je reçois aujourd'hui l'irréductible Jack pour la sortie de son nouveau livre passionnant Richmond Road qui sort aux éditions Rizière.
Du théâtre à la radio, ça arrive souvent, mais de la radio sur une scène de théâtre, c'est plus rare. C'est pourtant la forme que prend le spectacle de Dorcy Rougamba et Fel Winsar, intitulé « Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir ». Mais dans cette émission, l'invité, joué par Fel Winsar, est assez coriace. Bonjour Felwin.
Bonjour Pascal.
Du coup, j'ai un peu peur de me faire rabrouer.
Mais non.
On y va tranquille ?
Oui, tranquillement.
Alors, vous jouez le rôle d'un certain Dijak qui sort un nouveau livre et l'une des premières questions de la journaliste sur la scène est « Pourquoi écrivez-vous ? » Alors, je sais que c'est une question bateau, mais je me dis qu'à toute question banale et rabâchée, il peut y avoir aussi une réponse intéressante. Donc, pourquoi écrivez-vous, Felwin Sarr ?
En fait, je pense que la réponse sur scène est presque réaliste, en fait. Et que certainement, j'écris pour faire œuvre de lucidité.
Pour y voir clair,
y voir clair,
sur scène.
Faire œuvre de lucidité. Je pense aussi qu'il y a l'idée que l'écriture, dans cette expérience de vie qui passe, l'écriture aide à faire trace, quoi, à laisser quelque chose dans le temps qui s'effiloche. Et je pense que fondamentalement, c'est une entreprise de transmission aussi, quoi. Donc être en lien dans le temps et dans l'espace.
Alors, vous écrivez des essais, vous écrivez des romans aussi. Mais pourquoi écrire pour la scène et pour le théâtre ? Ou peut-être là plus qu'ailleurs, il est compliqué de laisser trace, puisque c'est un art éphémère.
C'est même un éloge de l'éphémère. Mais la parole adressée, elle joue à un autre lieu. Elle déplace les choses, je veux dire, on s'adresse aux individus à d'autres étages. Et maintenant, les textes de théâtre sont édités et imprimés. Donc, on peut avoir la parole vivante et on peut la retrouver silencieuse un peu plus tard.
Vous aimez être spectateur ?
Oui. J'aime bien écouter et voir, quoi, et entendre.
Alors, dans ce spectacle, vous faites entendre votre voix, au sens propre et figuré, mais aussi celle de deux de vos maîtres, René Char et Frantz Fanon. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas vivre, écrire, penser qu'avec des maîtres ?
Je ne crois pas. Il y a des gens qui ont des voix singulières qui font irruption. Je ne crois pas qu'il y ait nécessité d'un long compagnonnage. Mais je crois aussi qu'on ne naît pas écrivain. Souvent, on le devient du simple fait qu'on a été inspiré par d'autres écrivains, qu'on a été habité et nourri par eux, et qu'on s'est enduré avec eux. Et ça a été mon cas, en fait. J'étais un grand lecteur. Et au fil du temps, je pense très tôt, j'ai eu envie de faire comme eux. Donc j'ai eu envie d'écrire du simple fait que j'ai lu. Et j'ai vu en quoi la littérature était absolument fondamentale chez moi.
Donc René Char, Frantz Fanon, on est d'accord, ce sont vos maîtres.
Char plus que Frantz Fanon, pour être beaucoup plus exact. Char est mon grand maître que j'ai découvert il y a plusieurs années et chez qui j'ai aimé ce que j'appellerais la cohérence interne, le fait de tenter de mettre à l'unisson ses paroles et ses actes. Et que dans des temps troubles, j'ai estimé qu'il a été à la hauteur de son exigence littéraire. J'ai découvert Fanon un peu plus tard et il est devenu aussi un maître. Et justement, j'ai eu le sentiment que ces deux maîtres-là avaient des résonances intimes dans leur biographie et leur parcours.
Fel Winsar, écrivain, économiste, prof de philosophie africaine à Duke University aux États-Unis, cofondateur des Ateliers de la pensée à Dakar, acteur le temps de ce spectacle, Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir, mise en scène par Dorcy Rugamba. Cela donne un spectacle musical, poétique et politique qui pourrait presque rentrer dans la rubrique indiscipline, c'est-à-dire qui traverse toutes les disciplines du spectacle vivant. Est-ce que c'est un mot qui vous est cher, indiscipline ?
Oui, 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 il m'est cher parce que je pense que, déjà d'un point de vue académique, je m'attache ou je m'emploie à traverser les disciplines, à être à leurs frontières, à leurs marges. C'est ce qui fait que je me suis retrouvé dans un département d'humanité au sens large. Mais je pense aussi que d'un point de vue artistique, on peut les croiser, on peut les croiser et on peut créer des lieux hybrides dans lesquels se font entendre et la parole et la musique, et que ce soit une démarche qui tente de rencontrer une sensibilité dans un espace de la totalité, donc plus qu'un espace, je dirais, scindé ou micro-structuré.
Un spectacle donc indiscipliné où l'on découvre une de vos facettes, Fel Winsar, chanteur de charme.
De charme, c'est...
Coming from the highest bodies, flying on my deep knees, blowing from the sands of love, cherry, oh cherry. Falling on my deep knees, I never heard that you were knocking on the edge of the sea, blowing from the sands of love, cherry, oh cherry. Falling on my deep knees. When the night is falling in the mid-heart of the city, just commence it with me, tell you the oldest stories. When the night is falling in the mid-heart of the city, just commence it with me, tell you the oldest stories. Coming from the highest bodies, falling on my deep knees, blowing from the sands of love, cherry, oh cherry. Falling on my deep knees, never heard that you were knocking on the edge of the sea, blowing from the sands of love, cherry, oh cherry. Falling on my deep knees, when the night is falling in the mid-heart of the city, just commence it with me, tell you the oldest stories. When the night is falling in the mid-heart of the city, just commence it with me, tell you the oldest stories.
Higher's Bodies, Fel Winsar sur RFI au Festival d'Avignon, dans le spectacle que vous proposez avec Dorcy Rugamba. On peut traduire ce texte par corps glorieux.
Absolument.
La musique est très importante dans le spectacle, mais elle est aussi très importante dans votre vie, monsieur le professeur d'université.
Oui, oui, en fait, ce que je dois dire, c'est qu'avant de venir à la fac, j'ai eu une vie de musicien assez intense. Lorsque j'étais étudiant à Orléans, j'ai monté un groupe de reggae et on a joué ensemble durant 12 ou 13 ans. On a fait des albums, des tournées, joué dans les scènes importantes. À une époque, j'étais même intermittent du spectacle. Je faisais mes 43 dates par an. Et c'est après mon doctorat que je suis rentré au Sénégal enseigner et l'aventure du groupe s'est arrêtée, quoi. Et donc du coup, ceux qui me connaissent comme universitaire sont surpris et ceux et mes anciens donc amis musiciens, ceux qui me connaissent dans la musique, sont surpris de moi à la fac.
Vous êtes vraiment indiscipliné. Avec la sortie d'un album à la rentrée de septembre.
Oui, à la rentrée, automne, on a un disque qui sort de deux chansons.
Higher Bodies, c'est donc un extrait de Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir. Et du coup, je comprends pourquoi vous êtes si à l'aise sur scène, parce que 12 ans de concert, forcément, ça donne quelque chose, quoi. Enfin, le rapport à la scène n'est pas un rapport inconnu pour vous.
Non, le rapport à la scène n'est pas inconnu. La scène musicale est différente quand même. Je veux dire, c'est pas la même, mais ce n'est pas un lieu totalement inconnu. Et j'aurais même tendance à penser que l'amphithéâtre, la salle de classe, est une scène aussi. Je veux dire, on est devant les étudiants, il faut leur parler, il faut leur adresser un savoir, il faut les intéresser. C'est aussi une scène.
Extrait, donc, Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir. Est-ce que c'est une citation, ce titre de la pièce ?
Non, je l'ai créé, en fait.
Donc, il y a vos mots, il y a ceux de Char, il y a ceux de Fanon dans ce spectacle.
Il y a ceux de Fanon, de Char, d'abord, essentiellement, et entre les deux, il y a mes mots.
Et l'idée du spectacle, c'est la rencontre qui n'a pas eu lieu, à ma connaissance, entre René Char et Frantz Fanon. Ils étaient contemporains, mais ils ne se sont jamais rencontrés.
Ils se sont croisés. Ils ont 19 ans de différence d'âge, mais ils ne se sont jamais rencontrés dans le temps phénoménologique.
Et vous avez donc rêvé cette rencontre. Mais c'est vrai ou c'est un élément de langage pour le spectacle ?
Non, c'est un élément de langage pour le spectacle. Je veux dire, on a imaginé le rêve qui nous permettait d'entrer dans une dimension onirique et de faire se rencontrer ces deux individus qui ne se sont pas rencontrés dans la vie réelle, quoi.
Et quel est leur point de rencontre, justement ? Quel est leur point commun ? C'est ce mot de liberté qui est dans le titre du spectacle ?
C'est la liberté absolue et fondamentale, une quête qu'ils ont poursuivie jusqu'au dernier souffle, tous les deux. Deuxième point de rencontre, c'est la nécessité de s'engager, donc d'estimer que réfléchir, écrire et penser, c'est important, mais que dans des situations précises, ça peut être insuffisant, et de prolonger, je dirais, la pensée en acte. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fondamental chez eux. Et peut-être troisième point de rencontre, d'essayer de se libérer de toutes les formes de détermination. La race, la nationalité, le pays, le statut social, les conventions sociales. Et essayer de se réinventer à chaque moment de leur vie. Et c'est absolument clair et significatif lorsqu'on traverse leurs biographies qui sont habitées par ce désir absolu d'être ceux qui établissent leur rapport au monde, quoi, et ceux qui se définissent.
Si on reste, Felwinsar, quelques minutes sur René Char, sur son parcours, il est poète, il est écrivain, mais il est aussi résistant. Les deux termes ont presque le même poids dans sa vie.
Ils ont le même poids dans sa vie. Et d'ailleurs, juste avant de s'engager dans la résistance, il était en train de travailler à un recueil de textes. Puis il a estimé qu'à ce moment-là, il fallait qu'il quitte la mystique de la quête poétique pour transformer son geste littéraire en geste de lutte et de combat. Et ce qui est intéressant, il devient le capitaine Alexandre, il s'engage dans le maquis du CRS, mais au cœur de l'action, il continue à prendre des notes. Et il continue à fixer son expérience en disant ces notes n'empruntent en rien à l'amour de soi, elles furent prises dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, plus vite survolées que relues. Un feu d'herbe sèche eut tout aussi bien été leur éditeur, et ils notent l'expérience, et ces notes deviennent les feuillets d'hypnose.
Qui est l'une des œuvres les plus importantes de René Char.
Donc même au milieu de l'action, il n'oublie pas que c'est un écrivain.
René Char, dont vous faites lecture de quelques-unes des plus belles pages dans ce spectacle « Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir ».
Après le désastre, je n'ai pas eu le cœur de rentrer dans Paris. À peine si je puis m'appliquer ici, dans un lointain que j'ai choisi, mais que je trouve encore trop à proximité des allées et venues, des visages résignés à eux-mêmes et aux choses. Certes, il faut écrire des poèmes, tracer avec de l'encre silencieuse la fureur et les sanglots de notre humeur mortelle, mais tout ne doit pas se borner là. Ce serait dérisoirement insuffisant.
Face à la catastrophe, écrire, créer ne suffirait donc pas, Felwinsar. J'entends ce texte comme un appel à l'engagement, l'engagement de René Char dans les années 40-50. Mais aujourd'hui, quel écho cela a ? Parce qu'on est dans une période où être un artiste engagé est particulièrement mal vu.
Je pense qu'on est dans une époque assez dépolitisée et il y a toute une littérature extrêmement sophistiquée, quoi, pour réenfermer les artistes dans des bulles et dans des tours d'ivoire. Je n'y crois pas fondamentalement. Je crois que l'interaction avec la société et les enjeux de la société sont fondamentaux dans ce qui fait écrire. Je ne pense pas que ce soit juste une pure activité esthétique contre laquelle je n'ai rien. Mais je ne pense pas qu'on puisse être totalement insensible à la marche du monde. Et je pense que, bien évidemment, dans l'acte artistique, on crée des singularités et des individualités. Mais je pense qu'une fois qu'on a établi sa singularité et son individualité, il faut recréer du lien et des communautés. Et c'est là où ça fait sens, les deux. Donc l'aller-retour entre la tentative de la singularité et le retour à la communauté. Je pense qu'il faut réinjecter une plus-value de pensée, de sagesse, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas dans le corps social.
Et vous pensez que c'est le rôle des intellectuels, qu'ils vont prendre ce rôle à cœur dans les années à venir aussi, là où il y a des urgences, des urgences à la fois politiques, démocratiques, écologiques?
Je pense qu'ils devraient le faire. On a une urgence de lucidité, de pensée, de mettre du sens. Et certaines de nos crises sont liées à ce déficit de sens. Et je pense que chacun a son rôle dans l'espace sociétal, mais que ce n'est pas moins important de tenter de faire œuvre de lucidité et de le ramener au groupe social. Mais en même temps, c'est une injonction qui est absolument contradictoire, parce que si on prend Frantz Fanon, il écrit pour Noir Masque Blanc, il estime que dans le temps décolonial, il faut qu'il s'engage en Algérie, il y va, il est médecin à Blida, il soigne, il s'engage auprès d'une FLN, mais quand il lui reste quelques années et qui sait qu'il va mourir, c'est quoi son urgence? C'est d'écrire les damnés de la terre. Il comprend que désormais, le livre qu'il doit finir est une arme de combat dans le temps, et il revient à la littérature comme urgence et comme arme d'émancipation et de libération. Et donc, il dicte les pages des damnés de la terre à Josie, à ses amis dactylographes, et il est dans une grande urgence. Il ne relit pas le texte, et il veut que le livre sorte, puisqu'il veut que les nourritures spirituelles qu'il propose aident les Moudjahidines et les Africains à non seulement se libérer, mais à s'émanciper fondamentalement. Et là, le texte revient.
Dans le spectacle, vous ne nous dites pas c'est René Char, c'est Frantz Fanon. On le devine parce que les thématiques ne sont pas exactement les mêmes. René Char, c'est l'homme qui meurt à une vingtaine de kilomètres d'ici, à l'Île-sur-Sorgue. Il évoque beaucoup cette terre, il évoque beaucoup la guerre, la résistance. Frantz Fanon, il peut évoquer Avignon aussi, parce qu'il faut se souvenir que René Char a été celui qui invite Jean Villard à faire un festival il y a 75 ans, ici même. Et puis il y a Frantz Fanon, donc là on entend la Martinique, on entend l'anticolonialisme, on entend l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est un mélange vraiment des textes de l'un et de l'autre, comme s'ils étaient presque une entité.
Je pense qu'il y a eu ce désir des fois de les fondre et des fois de les distinguer, avec surtout de mettre en résonance des textes, tu vois, et des moments de leur vie qui se font écho. Lors de l'une des premières scènes, on voit Frantz Fanon qui raconte sa vie jusqu'au moment où il arrive en Alsace. Il mène la bataille d'Alsace et il s'arrête. Et il y a la René Char qui entre en scène, et là, il est dans le maquis du Céreste, et il dit à son ami Léon Saint-Germain comment traiter les hommes qui doivent créer un lieu où ils doivent recevoir des armes, donc l'homodépôt d'Urance 12. Et ces deux moments-là, ce sont des moments de la résistance contre le nazisme. Et ils sont dans une temporalité qui est presque la même. On est en 41-43, donc ce n'est pas très loin. Et à ce moment-là, oui, ils se rejoignent dans un terrain qui est le même. Et plus tard, la guerre de Char finit, il retourne à son écriture et à sa vie, mais la guerre de Fanon ne finit pas. Il considère que tant qu'il y aura des damnés de la terre, des peuples asservis, il ne peut pas finir son combat. Et là, il se déporte dans un autre lieu. Et là, on entend le temps du combat décolonial, etc. etc.
Et Fanon raconte sur scène, par votre voix et celle des comédiens, comment il vit l'expérience de la libération en 1945.
La guerre est finie. Nous sommes renvoyés à Toulon. La ville fête la victoire du 8 mai. Les soldats américains sont encensés. Les Toulonnaises ne veulent pas danser avec les soldats antillais. Nous avons reçu grades et médailles, mais la population nous ignore. Nous voulons rentrer aux Antilles. Après 25 jours sur le San Mateo, entassés dans des shelters insalubres, nourris de biscuits provenant des restes de l'armée française, nous arrivons à Fort-de-France, dans l'indifférence totale des autorités civiles et militaires de l'île. Éléonore nous accueille avec mon plat préféré, un dashin savoureux. La guerre est finie. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir.
La place demeure vide, mais le couvert reste mis.
Félouine Sarr, la liberté aujourd'hui est encore une invitée de marque que l'on attend.
De marque, on l'attend. On l'attend dans la vie réelle de beaucoup de peuples. Je veux dire, on a le faux sentiment que la question de l'autonomie, de la libération, de l'autodétermination est résolue. Il y a encore des peuples qui n'ont pas accès à cette autodétermination-là. Je dirais qu'il y en a plusieurs, on peut les citer. Mais je pense que c'est une forme de liberté intérieure qui est importante, une liberté donc de conscience, une liberté d'être en mesure de déployer toutes les potentialités de son humanité. Il est encore à conquérir pour beaucoup d'individus. Et ces deux libertés-là sont encore des hôtes ou des convives que l'on attend et qui ne sont pas là. Et je dirais même, peut-être à la différence de Charles, je ne suis pas sûr que le couvert il demeure mis pour eux.
Et c'est-à-dire qu'on a enlevé
les
couverts que l'on réserve la place du pauvre, comme l'on dit.
Oui, je pense qu'on n'y croit plus. Je pense qu'on a une sorte de rabougrissement de l'aspiration. Ce n'est plus une question qui semble agiter les uns et les autres. On a d'autres préoccupations beaucoup plus immédiates. Et c'est peut-être ça aussi l'un des grands problèmes, c'est-à-dire le déficit d'élan. On a été tellement violenté, entre guillemets, qu'on a revu à la baisse nos aspirations. Là, on a envie de retrouver la vie d'avant la crise. Je veux dire, durant les 3 premiers mois de cette crise, on s'est dit, tiens, un nouveau monde, plus écolo, plus ouvert, moins de transport. On a commencé à imaginer des choses. Mais lorsque la crise s'est approfondie, le seul désir que nous avons désormais, c'est de retrouver la vie d'avant. Ce n'est plus de...
Donc il n'y a plus de nouveau monde possible, rêvé.
En tout cas, si vous écoutez l'écho de ce qui se dit et de ce qui se souhaite, on a le sentiment que le seul souhait que nous avons aujourd'hui, c'est retrouver une vie moins contrainte. Et que les belles aspirations qui sont apparues, on s'est dit, finalement... Voilà.
Donc, la liberté, la liberté.
Le noir est un homme noir. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers où il faudra bien le sortir. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. La découverte d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d'humanité. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Et si à un moment la question s'est posée pour moi effectivement d'être solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagé envers moi-même et envers mon prochain à combattre toute mon existence de toute ma force pour qu'il n'y ait plus jamais sur terre le peuple asservi. Seront des aliénés nègres et blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé.
Félouine Sarr, vous dites ce texte qu'il écrit.
Franz Fanon, qu'il écrit dans Peau noire, masque blanc. Et c'est un texte intéressant parce qu'il s'attaque à la psychopathologie de la race dans ce texte. Donc il analyse le racisme. Donc il le reconnaît et il essaie d'en éclairer les raisons profondes. Mais en même temps qu'il fait ça, il appelle à une libération de la question de la race.
Mais alors comment l'entendre justement cette phrase aujourd'hui, à une époque où l'histoire de la colonisation et de l'esclavage commence à peine à mettre tout le monde d'accord? Et je dis à peine, on fait à peine le point aujourd'hui sur cette période de l'histoire. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut passer à autre chose?
Ah non, pas du tout. Je pense qu'il faut entendre que l'horizon, c'est de se libérer de la question de la race. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a une absolue nécessité de comprendre ce qui s'est passé, de faire le point, de guérir les traumas. Mais après tout, la race a été inventée en Europe à un moment donné bien précis. Et l'idée, c'est qu'un jour, on sorte de cette question-là. Et c'est là où Fanon est important, parce qu'en même temps qu'il s'attaque à la question de la race d'un point de vue psychopathologique, il l'analyse, c'est l'objet de son premier livre édité en 1952. Dans ce même texte, il ouvre un horizon et il montre qu'en fait l'idée ce n'est pas de rester dedans, mais donc il veut soigner cette série d'aberrations affectives.
Mais on est en chemin vers cet horizon ou pas, selon vous ?
Je n'ai pas le sentiment qu'on soit en chemin. J'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de travail. Déjà, ne serait-ce que de reconnaître l'existence d'un racisme structurel, de reconnaître le poids de l'histoire, de reconnaître la nécessité de guérir d'un trauma et de ne pas nier cette histoire-là. Mais en même temps, c'est une question hyper difficile. Lorsqu'on vous a construit et enfermé dans des catégories qui sont censées vous définir, à un moment donné, vous les revendiquez et vous les faites vôtres. Et même si ces catégories ne sont pas plus pertinentes. Et je pense que c'est toujours important de rappeler la finalité. C'est-à-dire qu'on passe par un chemin, mais en fin de compte, quand même, le fin mot de l'histoire, c'est de ne plus être déterminé par la question raciale. Et aussi, de ne pas être déterminé par l'histoire. De ne pas être juste à l'endroit où l'histoire nous a déterminés.
Et de choisir sa liberté.
Bah, c'est le but du jeu à la fin de la journée.
Vous citez Char et Fanon, mais un autre grand auteur bien vivant, en l'occurrence une autrice pour qui la liberté est fondamentale et présente à Avignon à travers un de ses textes, c'est la Guadeloupéenne Marie Scondé. Dans le théâtre de la chapelle du Verbe incarné, dans le Hof, Daniel Gabou, accompagné au piano, joue « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem ». C'est un texte et une histoire qui se passe au XVIIe siècle, au plus fort de la période esclavagiste. Reportage d'Alexandra Gégy.
Tu ne connais pas les Blancs! Si elle arrive à leur faire croire que tu es une sorcière, ils dresseront un bûcher et te mettront par-dessus!
C'est l'histoire de Tituba. Elle est accusée de sorcellerie. C'est une esclave qui va tenter de gagner sa liberté, de la construire. Elle va passer par différents maîtres. Elle va avoir des amants. Et elle va être accusée justement de sorcellerie dans le procès de Salem. Elle a été en prison après le procès de Salem et on ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue. Et là où Marie Scondé fait un roman, c'est qu'elle fait retourner Tituba dans son pays natal. Et Tituba, de cette liberté, de ce retour, va participer à la révolte des marrons par rapport au maître.
Elisabeth, êtes-vous folle? Vous laissez cette négresse s'asseoir à côté de vous? Dors, Tituba, et vite!
Quand j'ai lu « Moi, Tituba, sorcière », j'ai été extrêmement impressionnée parce que je me suis dit qu'il fallait du talent, ça c'est sûr. Et dans ce talent, beaucoup de liberté pour écrire ça. J'avais jamais rien lu de pareil. Et aussi, je me disais, mais sur scène, est-ce que j'aurai la force et autant de liberté pour jouer ce personnage? Et à chaque fois, je me disais, mais si Maryse a pu l'écrire, c'est que moi, je peux le jouer, je peux le lire, donc je peux le jouer. Et en ça, Maryse ouvre une porte pour les artistes et pour les lecteurs et pour tous ceux qui aiment les mots, la littérature, d'un imaginaire qui plonge dans la vérité de l'âme. Pour moi, le piano représentait une forme de bourgeoisie par rapport à l'esclave. Et en même temps, la musique permet à chacun, puisque c'est du Brahms, de s'en emparer. Ça permet que le texte ait une autre respiration, ça permet que le spectateur qui lui connaît ou pas Brahms y mette ses émotions personnelles. Donc la musique permet aussi que tout le monde vienne apporter quelque chose. Voilà, dans la musique, il y a une émotion qui est l'indicible en fait.
Fel Winsart, la parole de Marie Scondé, est-ce que c'est aussi pour vous une parole de liberté?
De très grande de liberté. Et en plus de cela, je trouve qu'elle a une grande capacité à s'approprier les mémoires des diasporas africaines. De Ségou au continent, à la Guinée, à tous les lieux qu'elle a habité, je dirais, d'un point de vue de sa production littéraire et de ses imaginaires.
Donc elle est à la hauteur presque de Char et Fanon.
Je mettrais Char et Fanon.
Un peu avant.
Un peu avant, mais c'est une très très grande écrivaine.
Ouais. Merci Fel Winsart. Je donne un coup sur la table. Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir et joué au Festival d'Avignon à la Collection Lambert, de même que Tituba au Théâtre du Verbe incarné. À demain.